On s'en va rejoindre au bout du fil un humoriste que vous connaissez bien, Mathieu Pepper. Salut Mathieu.
Salut Luc, ça va bien?
Oui, toi?
Oui, je parle bien, merci.
Malgré tout?
Oui, ben oui. Pour vrai, j'ai le moral, moi, ça va bien. On se parle à la fin d'une semaine qui était un petit peu plus difficile, ma première semaine un peu plus difficile au niveau du moral, mais là, ça va numéro un pour vrai.
Mathieu, on va parler de 14 000 millions de choses à savoir, émission sur Tout TV, où t'es arrivé cette année. Comment ça s'est passé, cette expérience-là, d'abord, pour toi?
Une des plus belles expériences de ma jeune carrière, c'était un rêve pour moi de jouer, premièrement, puis de faire une émission un peu, je compare ça un peu à une émission style bye-bye, là.
Ouais.
À le niveau actualité, c'est juste, on se met des perruques, on a des prothèses, on se met des moustaches, tu sais, on prend des accents, puis j'ai fait ça avec des amis, là, tu sais, moi, je suis très, très proche de Pierre-Luc Funk et Pierre-Yvroy Desmarais à la base, puis après ça, j'ai développé des super bons liens avec Gabriel Fontaine et tout le reste de l'équipe, Lou Pascal, Anna, tout ça, fait que c'était comme, à chaque matin, on rentrait très tôt, mais on rentrait avec des chums, puis on niaisait, puis on déconnait, puis il y a beaucoup de place en improvisation aussi, fait que c'était trippant comme projet, là.
C'est un projet jeunesse, la cible, c'est les jeunes. Est-ce que ça t'attirait, ce côté-là?
Ouais, vraiment. Moi, la télé jeunesse, je trouve ça vraiment important. Je trouve que ça a une place, ça peut avoir une place, en fait, vraiment importante dans la vie, dans le développement d'un jeune, d'un adolescent et tout ça. Je me rappelle que moi, ça a eu un gros impact, fait que dès que j'ai commencé à faire ce métier-là, j'ai voulu tout de suite aller faire de la télé jeunesse. Ça fait déjà plusieurs années que j'en fais. Puis ça, j'étais encore plus content vu que ça jumelait les deux. Un peu de folie puis un peu d'éducatif en même temps.
Est-ce que tu as un contact avec ces jeunes-là parce que tu es sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui t'ont suivi à travers ces projets-là, qui t'ont écrit au fil des années?
Oui, beaucoup. J'ai beaucoup de jeunes. J'ai même des jeunes qui viennent me voir en spectacle. Je te dirais que mon spectacle, des fois, il est un peu plus rough. Mais j'ai vraiment toujours des belles discussions avec les jeunes après aussi. Il y a des événements comme. Juste pour ado, mettons, à chaque année, tu sais, qui se passe dans le festival Juste pour Rire, qui est un gros meet-up, une grosse rencontre entre les jeunes et leurs artistes. Fait que, ouais, je suis quand même en contact via Instagram, surtout, là, avec eux, puis après les shows, puis tout ça. Ils me font triper, moi, je les trouve tellement allumés, ça n'a pas de bon sens, tu sais, je veux dire, on se compare, là, puis tu fais, Colin, tu sais, moi, je les trouvais allumés, mais eux autres, ça n'a pas de bon sens, là, sont intelligents, sont vifs, sont créatifs, déjà, c'est beau à voir, je trouve.
Le défi dans 14 000 millions, c'est que dans la même journée de tournage, on passe d'un personnage à l'autre à une vitesse rapide, évidemment. Est-ce que c'est complexe, ça, quand on n'est pas acteur de formation là-bas?
J'avais peur de ça, tu sais, comme tu dis, je suis pas acteur de. Non seulement je suis pas acteur de formation, mais j'ai pas joué beaucoup encore, tu sais, dans le sens que j'ai fait une couple d'émissions à gauche à droite, une couple de rôles, mais fait que ça me stressait, mais tu sais, en bout de ligne, c'est mon moment préféré parce que toi, tu le répètes chez vous, tu apprends le texte, tu lui donnes une saveur, mais où est-ce que ça se passe vraiment, un petit secret de tournage, c'est quand on est assis dans les chaises de maquillage, puis quand on se fait mettre la perruque, là, les maquilleuses puis les coiffeuses sur ce show-là, ils entendent tout parce que là, tu cherches le personnage, tu sais. Fait que des fois, on était les trois gars, là, moi, j'ai un souvenir, un sketch qui a été coupé, je pense, parce que c'était trop n'importe quoi, mais on était moi, Pierre-Luc Funk, puis Pierre-Yvroy Desmarais, on était assis en train de se faire maquiller. Et là, on cherche. Et là, on cherche. Puis à un moment donné, là, on se met en parlant, pas comme on l'a. Et là, on trouve, tu sais, ils mettent la perruque. Puis la perruque te donne une idée. Fait que toute la création qui se passe entre les scènes, moi, c'est vraiment, c'est mon bout préféré, je pense, de toute l'aventure. Là.
Est-ce qu'on apprend en même temps à côtoyer ces gens-là, à regarder, évidemment, les rouages d'un show comme ça aussi?
Ah, barouette, mais hein. Tu sais, Gabriel Fontaine, puis Pierre-Luc Funk qui font de la télé depuis toujours, tu sais, d'avoir des conseils, jamais ils ont joué cette game-là, ils se sont jamais pris pour des mentors, mais moi j'apprends beaucoup, je trouve, en regardant les gens aller, là. Fait que de les voir comment ils réglent les affaires, puis un gros sérieux, hein, même quand un comédien, un humoriste, peu importe, dit qu'il y a beaucoup de fun, puis que ça niaise, faut savoir qu'il y a un sérieux qui est vraiment, vraiment impressionnant sur les plateaux de tournage, parce que au Québec, on n'a pas beaucoup de temps pour faire de la télé. Fait que c'est ça, des fois, ça prend. C'est sûr que c'est plus l'équipe technique qui nous ramène, les réalisateurs et tout ça, qui nous ramène à l'ordre, mais je te dirais que c'est un apprentissage constant de travailler avec des gens aussi talentueux qui font ça depuis aussi longtemps. Là.
Est-ce que le danger, c'est de partir en impro? Parce que Pierre-Luc, entre autres, c'est un improvisateur, ou on se fait ramener rapidement, justement?
Non, dans ce cadre-là, il nous laisse aller quand même. Je te dirais que pour moi, c'était le danger, c'était de me perdre versus un aussi bon improvisateur. Puis finalement, je me suis trouvé une passion pour juste chirer puis essayer de le faire rire. Là. Tu sais, le but, c'est toujours de faire décrocher la personne avec qui t'es. Fait que on a eu quelques moments là, dans un des sketchs qui s'appelle l'hôpital 911, là, qu'on a eu quelques. Il y a des sketchs qu'à un moment donné, il a fallu là, que le réalisateur nous prenne à part. Fait que, OK, les gars, là, on a besoin de sérieux parce que là, vous déconnez trop, puis là, on parle du temps et tout ça. Mais ça fait du bien d'avoir ça parce que ça veut dire qu'on a été ça veut dire qu'on s'est permis un peu de folie, puis là, on le sait, là, on se ramène à l'ordre, puis tu sais, ça va mieux aller après pour l'équipe.
Est-ce que ça t'a donné le goût d'en faire plus?
Ah ben ouais, t'as pas idée. C'est, je pense que la pire nouvelle du confinement, c'est que j'avais cette vibe-là, tu sais, c'était parti, on a quand même beaucoup de couverture, c'était annoncé que j'étais dans ce show-là, je commençais à avoir des appels, puis tout ça, j'espère qu'il va y avoir une saison 3 aussi, j'aimerais vraiment ça que ça revienne. J'ai envie de jouer, là, tu sais, je te dirais que cette année, c'était mon objectif, ça a bien été, j'ai eu 2-3 contrats là, de jeu, puis j'aimerais ça encore en avoir plus, parce que je trouve que ça se jumelle bien à ce que je fais dans la vie, puis moi, qui m'a marqué dans la vie, c'est les humoristes et la télé. Fait que j'aimerais ça pouvoir être capable de faire ça tout au long de ma carrière. Là.
Donc, est-ce que c'était un souhait au départ, quand tu as décidé de faire de l'humour, de faire comme ces humoristes-là que tu as vus, toucher un peu à tout?
Oui, absolument. Moi, j'ai pas... Non, il y a des affaires que je veux pas faire, mais je suis vraiment très, très ouvert. T'sais, moi, j'ai fait de la radio, de la télé, de la scène, puis de la TV, de la radio, de la scène, pas mal du jeu, puis de l'animation, tout ça. Mettons que ça fait 5 ans que je fais ça. Fait que je me dis, sur 40 ans, 50 ans de carrière, j'ai tout le temps d'en faire des affaires. Fait que tu sais, je veux jouer de plus en plus, je veux jouer dans un film, je veux avoir un livre dans une série, je veux faire du dramatique. Je veux vraiment, vraiment toucher à tout, là.
OK, donc ça ne touchera pas seulement l'humour, finalement.
Non, parce que je trouve que... puis ça, c'est un peu philosophique, mais... parce que ma vision de l'humour, c'est que l'humoriste, pour monter sur scène, puis pour assumer, puis pour être capable d'aller dire des affaires. Parce que pour moi, ça, la création parle beaucoup d'une certaine douleur, c'est peut-être un peu gros comme mot, mais d'une certaine écorchure. Ou il y a quelque chose dans le dedans qui te dérange. Parce que ça prend quelque chose de fort pour monter sur scène, aller parler de tout et de rien. Fait que je trouve que ce spectre-là pourrait très bien servir des rôles dramatiques. T'sais. Fait que j'ai comme envie de l'essayer. Après ça, on verra bien si ça marche ou si ça marche pas, mais moi, je pense que ça peut être payant.
Ça fait 6 ans qu'on te connaît. C'est en 2014 que tu as fait En route vers mon premier gala Juste pour rire. Quel regard tu as sur ces 6 années-là? C'est rare quand même qu'on ait la chance de toucher à autant de choses en si peu de temps.
Ouais, c'est vrai. Je me considère assez drôle parce que je m'en rends pas compte. T'sais, tu vois, là, tu viens de le dire, ça m'a fait un petit pincement. C'est genre que je m'en rends pas compte des fois de cette chance-là. T'sais, en 6 ans, j'ai fait tellement d'affaires... J'ai la chance de travailler intense depuis le début. Je me considère vraiment chanceux pour vrai, puis j'aime de plus en plus le lien que j'ai avec les gens. Fait que c'est ça qui est beau de cette carrière-là, c'est quand ça commence à monter un petit peu à l'œil du grand public. Mais là, tu as une vraie relation, je sais que c'est bizarre à dire, mais tu as vraiment une relation avec les gens. Tu es content de les voir, quand ils te rappellent un projet, ben là, tu portes une anecdote. Il y a quelque chose que je trouve vraiment, vraiment beau là-dedans. Puis à chaque fois que je réfléchis au projet que je fais à date, j'ai toujours eu du fun. J'ai pas de projet qui m'ont donné du fil à retordre ou qui m'ont fait tuer. Fait que je peux juste être vraiment dans la gratitude quétaine puis être vraiment, vraiment content de ce qui arrive.
La crise de la pandémie est arrivée alors que tu commençais à présenter ton show. Comment tu as réagi? Parce qu'évidemment, c'est un mauvais timing. Il n'y en a pas de bon timing pour ça, là, mais...
Non. C'est la raison qu'il n'y aura jamais de bon timing, mais c'est ça. Puis tu sais, au début, moi, j'ai beaucoup fonctionné avec je me suis comparé, là. Tu sais, je me comparais à d'autres gens. Puis je me disais, oh, je suis chanceux, je suis parmi les chanceux. Puis ça, je te disais tantôt que c'est la première semaine, tu sais, que je commence à être un petit peu plus affecté. C'est que on dirait que je me donnais pas tant le droit de chialer ou de vivre des dents parce que je me disais, Colin, tu sais, j'en profite pour écrire. Moi, je suis en développement de ma première série télé. Je suis en train de faire ces affaires-là en ce moment. J'écris beaucoup. Je développe des trucs. J'ai des meetings à chaque semaine avec mon équipe pour me garder vif. Mais tu sais, en bout de ligne, j'étais supposé lancer un one-man show moi, dans les prochaines... c'était ça la prochaine étape. T'sais. Fait qu'après ça, ça t'affecte de pas pouvoir partir en rodage, de pas pouvoir travailler ce show-là parce que j'ai bien beau réécrire, tant que je vais pas sur une scène parler avec du monde, je ne saurais pas ce qui marche. Fait que c'est un mauvais timing, c'est juste partie remise. Il y a une petite inquiétude au niveau du momentum. On se demande, ça revient-tu? On va-tu repartir comme c'était? On va-tu revoir ces projets-là? Mais ça, c'est de l'anxiété qui est sur quelque chose qu'on n'a pas de réponse anyway, tu sais. Fait que je te dirais, il n'y a jamais de bon moment pour que ça arrive. Ça fait chier, mais on va passer à travers. Puis je trouve que, je sais pas si tu te sens comme ça parce que tu fais partie de la culture, toi aussi, Luc, mais il y a quelque chose de beau, je trouve, dans « on va participer, nous, à la relance de la culture québécoise ». Qui veut dire que, dans l'histoire, on a la chance, en fait, d'avoir peut-être un rôle quand même intense puis quand même important dans la culture québécoise, parce qu'il va absolument falloir qu'il y ait un mouvement de relance, et on va en faire partie. Puis ça, d'une certaine façon, ça me console, parce que j'aime beaucoup les projets rassembleurs comme ça. Fait que je me dis que ça va être peut-être une belle étape, qui va avoir du beau qui va sortir à travers tout ce drame-là. T'sais.
Et les gens en auront besoin de ça éventuellement. Là, présentement, on dit qu'on le sait pas, mais éventuellement, les gens vont avoir besoin d'aller voir des chanteurs, des humoristes, du théâtre.
Ouais, peut-être qu'ils vont avoir une meilleure raison. Tu sais, je veux dire, là, on a besoin de changer d'idée. Tu sais, au Québec, on achète des billets pour les humoristes. On achète ça, puis c'est tout. Tu sais, c'est comme ça depuis des années. On va voir nos préférés. Mais là, tu vas avoir le goût d'aller voir un show de musique. Tu vas avoir le goût de... Quand même, je pense même que c'est toi, Luc, qui m'avais fait réaliser ça. Peut-être que ça va nous donner un rôle un petit peu plus... un peu plus noble, même, dans la patente. Parce que là, les gens vont avoir besoin de nous. On sera pas un plus, on va être une nécessité. Peut-être que oui, peut-être que ça va faire du bien à tout le monde que ça repart.
Et à l'inverse, on va l'apprécier doublement, j'imagine, comme artiste, ce privilège-là que les gens nous choisissent dans tout ça?
Tellement. Mec, ça reparte, là. Chaque personne qui va être dans ma salle va me dire « Tabarouette, ouais, à travers tout ce qu'ils vivent, tout ce qu'on a vécu, ils m'ont choisi, moi. » Oui, ouais, ça donne vraiment ça va donner un boom de plus. Ça va donner envie, en tout cas, d'aller encore plus à la rencontre de ces gens-là, parce qu'on va être tous ensemble en train de s'aider. T'sais. Eux, ils m'aident en venant voir le show. Moi, je les aide en leur faisant passer un bon moment. C'est ça. Tu vois-tu, quand je te parlais du beau, le beau mouvement avec la culture, j'ai hâte de voir tout ça, tout ce feeling-là, puis de le ressentir dans les shows, après show, aux photos, tout ça. Si photos, il y aura un jour, là, après les spectacles. Mais ouais, j'ai vraiment hâte de vivre ça.
Est-ce que tu retravailles le show présentement ou tu as décidé de ne pas y toucher du tout?
Je t'avoue que moi, c'est parce que j'avais un plan sur papier là, de réécriture de nouveau matériel. J'ai essayé un peu. Je t'avouerai que c'est la partie la plus difficile de ma créativité en ce moment, c'est l'aspect stand-up. Là. Fait que j'écris beaucoup de dialogues, j'écris beaucoup pour mes autres projets connexes. Mais pour le stand-up en ce moment, c'est plus difficile parce que je vis rien. T'sais. Et j'ai pas envie, moi, d'écrire. Je serais pas un des humoristes, là, je le dis haut et fort. Je serais pas un des humoristes qui va parler du COVID. J'en parlerai pas, ça m'intéresse pas. Il y a rien, moi, qui m'intéresse là-dedans. Des affaires connexes à ça, peut-être. Mais en ce moment, j'ai plus de difficultés à écrire du stand-up et à raconter un peu ce qui se passe, t'sais, sans tomber dans le dark, on dirait de la patente. Fait que j'aime mieux. Je me donne plus d'espace à ce niveau-là, puis je vais recommencer à écrire probablement avec les shows repartent.
Est-ce que c'est un défi, un premier one-man show, parce que c'est la grande carte de visite, là? C'est une espèce de présentation au public, finalement?
Ouais, c'est un défi pour le public, c'est un défi pour moi-même. Ça fait tellement longtemps que je rêve de ça. T'sais, j'ai jamais rêvé de rien d'autre que de faire ce que je fais en ce moment. Fait que le one-man show, automatiquement, quand tu rêves de devenir humoriste, bien, automatiquement, le one-man show devient ton objectif numéro un, tu sais. Puis je te dirais que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de ouais, pour les gens puis pour moi, tu sais. J'ai envie que ça soit bon pour eux. J'ai envie que le monde capote sur le show. Puis j'ai envie moi aussi de capoter sur le show. Je voudrais pas présenter quelque chose qui me rend pas fier. Fait que j'ai vraiment hâte de sortir cette affaire-là. Puis, j'ai hâte de travailler dessus parce que je pense que le processus va être vraiment le fun. Fait que là, je t'en travaille dessus d'une certaine façon, mais j'ai hâte de partir la machine, tu sais, quand on lance un one-man show, ben, on va rentrer un script éditeur, on va rentrer une mise en scène, on va rentrer les rodages le plus souvent possible, on va aller faire le tour du Québec. J'ai vraiment hâte à cette étape-là pour après se présenter ça au Grand Montréal.
As-tu gardé des numéros que tu as présentés dans les dernières années ou aucun?
Je te dirais que dans mon show en ce moment, dans mon pré-rodage que j'ai en ce moment, oui, j'en ai beaucoup. J'en ai quelques-uns. Mais pour le lancement de mon show, quand je vais le lancer, là, je te dirais qu'il va en rester deux ou trois qui sont dans mon show actuel, mais rien que j'ai fait en captation télé ou rien que j'ai fait sur des trop grandes scènes. Fait que c'est juste que je roule ce rodage-là depuis quelques mois déjà. Mais dans mon one-man show, ça va être que du nouveau presque.
Et là, tu parles d'écriture de séries télé. C'est un souhait que tu avais depuis longtemps?
Ouais, c'est un rêve de petit cul que j'ai. Moi, quand j'étais petit, j'avais un ordinateur dans ma chambre. J'écrivais des dialogues, j'écrivais des scènes, j'écrivais des sketchs, j'écrivais des pièces de théâtre. Mais fait que j'ai toujours voulu faire ça. Puis ça fait comme 3 ans, mettons, que je me suis donné comme but d'amener ma première série télé à la télé. Puis là, j'étais en développement de premier projet. Écoute, il reste tellement d'étapes avant que ce soit concret encore, mais c'est vraiment trippant pour moi d'enfin plancher sur un projet comme ça.
Mais as-tu déjà commencé des approches ou pas encore?
Oui, absolument. Okay. Ouais, c'est un processus qui est quand même assez long là, en télé au Québec,
ouais.
Surtout quand tu es quelqu'un qui n'a jamais écrit. T'sais, moi, ça va, mon nom est fait à un certain niveau, mais pas au niveau de l'écriture. Je ne suis pas auteur, je ne suis pas scénariste. Fait que c'est sûr que c'est des approches qui viennent avec, avec des preuves à faire. Puis moi, j'aime beaucoup, beaucoup cette position-là dans la vie. Là. J'aime beaucoup la position de l'underdog qui surprend. Fait que j'ai fait ça tous les débuts, les premières approches avec des producteurs, puis tout ça. Puis là, on est en train de développer la patente.
Est-ce que tu jouerais dedans?
Oui.
Okay, okay.
Oui, dans le meilleur des mondes, mais ça, c'est une autre affaire aussi.
Oui, parce que...
Il faut toujours les convaincre, tu sais.
Oui, c'est ça, on décide pas de tout.
Pardon?
J'ai dit, on décide pas de tout au final quand il y a d'autres gens impliqués.
Non, c'est ça, puis à un moment donné, tu sais, t'aimes-tu mieux le projet ou t'es mieux de mettre en valeur? Il arrive ce bout-là aussi où est-ce que... Faut que ça serve le projet. Je pense beaucoup à François Létourneau, dans Les Invincibles, dans C'est comme ça que je t'aime, ou encore Série Noire, il sert le projet. T'sais, il s'écrit des rôles qui fit pour lui puis qui sert le projet. Pis sinon, je sais qu'il se mettrait pas dedans. T'sais. Fait que j'ai comme beaucoup cette présence d'esprit-là de me rappeler, OK, je suis encore moi. Mais pour l'instant, à chaque fois que j'écris, je me dis, ah ouais, je suis encore moi, je suis encore capable. C'est encore ça que je vois le mieux dans ma tête. Fait que, mais ouais, j'aimerais bien ça jouer dedans.
Est-ce que rapidement, dans cette période-là, tu as réussi à te mettre à l'écriture? Parce que je parle à différents artistes, il y en a qui me disent que pendant les premières semaines, c'était gelé, il n'y avait rien qui sortait, tu n'étais pas capable d'écrire parce que c'était trop difficile ou en tout cas, c'était trop flou ce qui se passait. Il y en a d'autres, au contraire, que ça a été très prolifique. Toi, tu étais où là-dedans?
Ouais, je suis dans les chanceux qui a eu la chance d'avoir la tête de son bord, je pense. Moi, ça a vraiment bien été. Plus au début, je te dirais comme la semaine passée. En fait, cette semaine, ça a été un petit peu plus difficile. Tu sais, l'écriture, c'est que t'as beau t'asseoir à tous les jours. Si ça sort pas, ça sort pas. Voilà. C'est difficile, tu sais. Mais j'ai continué à me conditionner. Mais là, aujourd'hui, depuis 3-4 jours, j'ai un projet, le manivel, que je me suis dit, parce que moi, je suis à mon chalet. Fait que tu fallait que j'ouvre le terrain. Après ça, j'ai eu l'idée de me faire une table de travail. Fait que tu sais, je me mets là-dessus, j'essaie de me garder actif le plus possible quand l'écriture fonctionne pas. Mais oui, j'ai eu la chance j'ai beaucoup, beaucoup d'écriture derrière la cravate dans les dernières semaines. Puis une chance parce que ça me fait sentir vivant de pouvoir travailler un peu. Tu sais, je suis quelqu'un qui s'identifie beaucoup par son travail. Ouais. Puis moi, je trouve pas que c'est négatif, je trouve que c'est une bonne chose, mais quand tu te fais dire que tu feras plus de show pendant 6 mois, 8 mois, tu sais, à un moment donné, tu fais « OK, je vais m'identifier par quoi? » Puis je suis en train de flirter avec l'écriture, de cruiser l'écriture, là, parce que ça fait longtemps que j'écris, mais en vrai, là, notre relation vient de prendre un autre niveau, on habite ensemble.
Est-ce que le fait d'aller faire des jobs manuels, ça développe l'inspiration après, parce que tu y penses pas le temps que tu es là-dessus?
Ouais, c'est ça qu'au début, je me suis demandé, ça va-tu me faire venir des idées où ça va comme juste, mais je suis tellement pas manuel qu'il faut que je mette toute ma tête sur le projet manuel, mais quand que je finis, mettons, là, j'ai le goût de travailler. T'sais, c'est comme si ça motive mon esprit, c'est la créativité aussi, ouais. De trouver comment faire le meuble, tout ça, fait que pour l'instant, il n'y a que du positif. T'sais. Hier, j'ai fini de travailler le meuble, il était 9h15, après ça, je faisais mon live à 10h, puis après ça, j'ai écrit jusqu'à 1h30 du matin parce que j'étais comme super motivé puis super allumé par la créativité des travaux manuels puis par le live Instagram que je fais avec Guillaume Pinot. On s'est fait rire, tout ça. Fait que, tu sais, moi, je m'entretiens. Le but, c'est de pas que ça soit pas abrutissant comme situation parce que je trouve que si tu fais ça devant la télé puis tu fais rien, c'est pas long, là, que ton cerveau, là, si tu le stimules pas, il va pas se forcer, lui. Lui, il va tomber en genre de coma végétatif, puis là, c'est là que tu viens à passer une semaine assis sur le divan, rien faire. Puis ça, moi, je trouve ça dangereux pour l'esprit, fait que j'essaie de me trouver des projets toujours.
Tu fais des lives Instagram, tu l'as dit, avec Guillaume Pinot. Qu'est-ce que ça t'apporte, ça, ce côté-là? Il y a un côté avec le public aussi, là-dedans.
Ouais, mais il y a vraiment une belle proximité avec le monde. Le monde, il embarque, il m'écrit. Mais écoute, c'est pour la première fois de ma carrière, ou presque, je suis en retard sur mes messages Instagram. Habituellement, je suis toujours capable de répondre dans les 4-5 jours qui suivent, tu sais, au nombre de monde qu'il y a. Mais là, les gens, ils écrivent à tous les soirs après les lives, on leur fait du bien, on a des contacts, on a des insides avec le monde. Ça fait bientôt 7 semaines qu'on fait ça. On était dans les premiers à l'avoir fait avec Matt Duff puis avec Arnaud Soli, tout ça. Fait que, moi, une belle proximité avec le monde, ça me garde allumé aussi parce qu'une heure par soir, on se raconte des anecdotes, on se fait rire, on prépare du matériel, tout ça. Fait que ça fait du bien aussi. Ça donne une certaine hygiène, comme je l'ai dit, tu sais, comme je me mets des projets pour me garder allumé, ben, on dirait que ça fait partie de l'hygiène de vie que je me suis donné. Je sais pas pour combien de temps encore on va le faire, mais j'aime vraiment ça. Honnêtement, j'aurais pas cru, là, parce que j'étais sûr qu'il disait qu'il en ferait jamais, mais finalement, j'aime bien ça.
Mathieu, si les gens veulent te suivre, évidemment, la série sur Tout TV, 14 000 millions de choses à savoir, mais on peut te suivre sur le web aussi?
Oui, absolument, mais là, surtout en confinement, là, je me suis ouvert un compte TikTok, okay. Je suis sur Instagram, je suis sur Facebook, d'ailleurs, j'ai sorti une nouvelle vidéo sur Facebook dans ma story Instagram aujourd'hui. Après ça, tu sais, j'essaie de sortir du contenu de temps en temps, comme là, je suis en train de documenter mon assemblage de meubles. Tout ça va se retrouver sur mes réseaux sociaux, puis mathieu.pepper.com pour les billets de spectacle, quand tout ça va enfin repartir.
Mathieu, merci beaucoup pour ton temps.
Merci à toi, Luc. C'est un plaisir.